Priorité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo pour parler de la lutte contre le paludisme et des progrès dans ce domaine. C'est un reportage d'Imogène Lambe à Kinshasa et dans le Bas-Congo. Imogène, dans la première partie de l'émission, juste avant les informations, nous avons entendu une femme à Kinshasa qui n'a pas de moustiquaire chez elle et dont un enfant venait d'attraper le paludisme. Est-ce que les gens savent que les moustiquaires et les antipaludéens sont distribués gratuitement aux femmes enceintes dans les centres de santé ?
Oui, la plupart savent, mais comme j'ai dit tout à l'heure, les consultations sont payantes et toutes les femmes, même enceintes, même en ville, ne consultent pas forcément. À l'hôpital de Ngaba, qui se trouve dans un quartier défavorisé de la capitale, la directrice des soins m'a dit que cette situation s'est nettement améliorée grâce à la sensibilisation. Les explications de Béatrice Trabé, chef de la maternité, et Albertine Eodo, directrice de nursing.
Avant, il y avait beaucoup de mamans négligées, surtout deux ou trois accouchements. Ils disent, ah, moi j'ai déjà accouché plusieurs fois, pourquoi aller à la CPN, consultation prénatale. Maintenant, les mamans ont compris qu'il faut aller. Chaque grossesse a ses spécificités. C'est comme ça qu'ils viennent. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous voyez, dans notre pays, les mauvais temps, hein, les mamans tardent un peu à venir. C'est comme ça que vous voyez ce nombre-là.
Alors, pourquoi elles tardent à venir quand il ne fait pas bon? Elles ont peur qu'il pleuve.
La pluie et puis l'insalubrité. Parfois, il y a inondation dans la maison. Vous venez ici, la pluie tombe là-bas. Parfois, ça peut inonder la maison.
Donc j'ai vu justement en venant du centre de Kinshasa que dans ce quartier, il y a énormément d'eau qui croupit dans les allées, dans les rues. Il n'y a pas beaucoup d'égouts. Ça favorise la transmission du paludisme.
Oui, on jette même les immondices. Vous voyez même les immondices sur la route. Mais nous ici, on sensibilise pour nettoyer quand même et mettre la propriété dans l'air parcelle.
Et donc vous, madame, qui assistez aux accouchements, est-ce qu'il vous arrive de voir des problèmes ou de voir des nouveau-nés qui sont très petits de taille et de poids parce que la mère a eu le palud pendant la grossesse?
Oui, nous avons les enfants dysmatures en faible poids parce que les mamans sont atteintes de paludisme. Hein, on soignait en gynéco.
Et les bébés peuvent naître avec le palud, n'est-ce pas?
Oui. Mais malheureusement, vous verrez quand on sera là-bas, hein, il n'y a pas vraiment de salle appropriée pour ces enfants-là. On a vraiment des difficultés. Cette maison ici, on avait conçu ça en 2005 avec notre agent du gouvernement PTTE et on n'arrive pas à terminer. Nous avons vraiment, vous allez voir la pédiatrie là-bas, une petite salle avec les autres enfants. Bon, on se débrouille comme ça parce qu'on ne peut pas laisser ces enfants-là comme ça.
Et il vous arrive d'avoir des décès de la maman ou du bébé dû au palud?
La maman, c'est rarement. Mais les bébés, oui, ils arrivent en retard, juste à l'accouchement. Qu'est-ce que vous allez faire?
Et nous avons encore un problème, vous voyez, l'électricité. Ça nous pose énormément les problèmes.
Là, c'est coupé, là?
Bon, maintenant, si c'est les groupes. Si ce n'est pas coupé, si c'est coupé, on met les groupes. Mais il faut chaque fois acheter les carburants. Tantôt, ça tombe en panne. Il faut arranger. C'est vraiment un sérieux problème.
Et ça manque souvent?
Oui.
Je vous laisse partir, il y a votre chef qui vous appelle pour la visite.
Oui.
On en reparlera peut-être tout à l'heure.
Oui.
Merci.
Oui.
Je vais m'approcher des mamans qui attendent justement la consultation. Elles sont toutes assises sur des chaises dans cette pièce ouverte sur la cour. Il y a une trentaine de femmes qui attendent, toutes enceintes. Certaines ont un jeune enfant avec elles. Bonjour, je m'appelle Imogène.
Bonjour, c'est Christelle.
Vous êtes enceinte de combien de mois, là?
Ben, c'est déjà 7 mois.
Donc, ce n'est pas votre première consultation?
Oui.
Qu'est-ce qui vous pousse à venir consulter? Pourquoi c'est important pour vous de venir faire la consultation prénatale?
Pour mon bien avec les biens des bébés. Oui, c'est tout.
C'est votre premier bébé?
Oui.
Et est-ce que vous dormez à la maison sous une moustiquaire?
Non.
Pourquoi?
Parce que j'en ai pas.
Ils vous en ont pas donné ici? Ils en distribuent pas?
Non, ils n'ont pas encore distribué.
Et vous pensez en avoir une avant la naissance de votre bébé?
Oui.
Et combien vous coûte la consultation?
La consultation, bon, c'est selon... C'est l'heure précise, il nous demande d'amener 4 500 ou 10 dollars. Si j'en ai, je vais venir avec ça. Si je n'ai pas, je vais amener même la moitié. Oui.
Et ça, ils acceptent que vous payez que la moitié?
Bon. Je veux. Donc, elle nous dit que c'est la dette. Si on aille là, on va payer.
Et c'est très cher pour vous? C'est difficile pour vous de trouver
c'est
l'argent?
C'est très cher, vraiment. D'ailleurs, mon mec n'a pas d'argent. Il débrouille seulement. Moi-même, je n'ai pas d'argent. Je débrouille seulement comme ça, là.
Merci beaucoup.
Merci.
Et bon accouchement.
Merci.
Alors, je suis venue dans un quartier résidentiel juste à côté de l'hôpital et je suis arrivée dans la cour d'une maison. Et il y a un petit garçon qui vient me dire bonjour.
Oui.
Comment tu t'appelles ?
Christopher.
Et quel âge tu as ?
J'ai 11 ans.
Et est-ce que tu habites ici ?
Oui.
Vous êtes combien dans la famille ?
Nous sommes 3. Mon frère,
oui,
et ma petite sœur.
Donc tu as tes parents, il y a des grands-parents qui sont là aussi?
Oui, maman, papa est allé au travail. Alors le moustiquaire pour moi. Je voulais prendre le moustiquaire pour dormir parce qu'il y a trop de moustiques ici.
Tu me demandes de te donner une moustiquaire?
Oui.
Ah. Et tu n'en as pas alors?
Oui, je n'en ai pas.
Et personne n'a de moustiquaire dans ta famille?
Personne qui a les moustiquaires dans notre famille.
Bon. Alors pourquoi il faut faut dormir sous une moustiquaire, dis-moi.
Parce qu'ici il y a trop de moustiques et de mouches. Comme on dort, des mouches viennent piquer dans le corps. Si le moustique me pique, je prends la maladie qu'on dit la malaria.
Oui.
Puis la malaria et puis du fièvre et puis ça commence à voir comme ça. Ça que je connais.
Et où est-ce que tu as appris tout ça?
C'est mon père qui m'avait expliqué ça.
Et dis-moi, comme tu dors sans moustiquaire, est-ce que ça te dérange, les moustiques qui te piquent la nuit? Ça te réveille? Ça gratte?
Ouais, ça me dérange. Et puis, parfois, s'il me fait sortir des boutons. C'est ça que je suis en train de gratter.
Merci, Christopher.
De rien.
Et madame, bonjour. Donc bon, la maman chasse les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus dans votre cour. Bonjour madame.
Bonjour.
J'ai vu quand j'ai commencé à parler à votre fils, vous lui avez dit de me demander une moustiquaire.
Oui.
Alors, comment se fait-il que vous n'ayez pas de moustiquaire?
Pas encore acheté.
Et vous savez qu'on va bientôt en distribuer à Kinshasa?
Bientôt.
Vous allez prendre ça?
Oui.
Donc ta maman, elle va prendre les moustiquaires pour toute la famille si elle peut?
Oui, elle peut prendre tout le moustiquaire pour notre famille.
Et tu crois que ta maman, elle va dormir sous la moustiquaire?
Elle va dormir avec ça, on va lui forcer de dormir avec ça.
C'est ça, c'est toi le fils qui va lui dire?
Oui. Parce que c'est moi le nez, je dois le forcer pour le pousser dormir avec le moustiquaire.
D'accord, ok. Ben, merci Christopher.
Vous l'avez compris, dans cette émission, on est obsédé par les moustiquaires imprégnés, qui sont quand même un merveilleux moyen de prévention. Imogène Lamb, alors c'est encore courant, même à Kinshasa, des familles sans moustiquaires.
Oui, mais impossible de savoir, sinon il faudrait aller se rendre dans chaque maison. Dans ce quartier, en tout cas, près de l'hôpital d'Engaba, plusieurs familles sont venues nous dire qu'elles n'avaient pas de moustiquaires. Et je suis rentrée chez Christopher, je n'en ai pas trouvé. Certaines familles avaient des enfants de moins de 5 ans. Elles devraient en avoir. À se demander donc si la distribution se fait toujours correctement.
Alors, vous avez quitté Kinshasa et vous êtes allé en milieu rural?
Oui, à Kimpese, dans le Bas-Congo, près de la frontière avec l'Angola. C'était un changement de cadre radical par rapport au centre de santé de Kinshasa. L'hôpital de Kimpese est grand. Il a plusieurs bâtiments différents. On entend les oiseaux, pas les voitures. Les femmes et mères des patients font la cuisine et la lessive dans les jardins. Mais On retrouve les mêmes problèmes qu'en ville, entre autres les gens qui essayent de se soigner eux-mêmes plutôt que d'aller à l'hôpital.
Et cela crée plusieurs problèmes. Beaucoup de faux médicaments contre le paludisme circulent.
Oui, les gens peuvent prendre des médicaments pour une maladie qu'ils n'ont pas. Aussi, comme il y a le risque d'une résistance qui se crée aux médicaments antipaludiques, ce n'est pas bon d'en prendre sans que la maladie soit diagnostiquée. Et puis l'automédication peut permettre à la maladie de s'aggraver, bien sûr. Pendant que j'étais à l'hôpital de Kempezé, un jeune garçon est arrivé dans le coma. L'infirmier Jérémy Mputu m'a dit que le diagnostic a confirmé qu'il avait un cas grave de paludisme.
Je suis déplacé de la personne de Kinine, un enfant de 6 ans qui a un paludisme grave. Il a été transféré du centre de santé de Seko, Kempezé.
Et donc ce centre de santé ne pouvait pas le soigner, ils l'ont envoyé ici chez vous, c'est ça?
Bon, ils pouvaient bien les soigner, mais ils ont trouvé que l'enfant, en administrant la première dose de quinine en perfusion, l'enfant continue toujours à convulser. Raison pour laquelle ils ont transféré l'enfant à l'hôpital général de référence pour la précision diagnostique.
Et donc, quels sont les soins qu'il faut apporter à cet enfant?
D'abord, la perfusion de quinine, parce que nous avons fait la goutte épaisse qui est sortie à trois croix. Et le médecin jugeait bon de donner la personne à quinine, de connaître toujours avec la quinine en perfusion. Après la perfusion, nous allons évaluer si l'enfant peut prendre normalement, il prend la forme perrosse de la quinine.
Donc là, le minimum de temps que vous allez le laisser en perfusion quinine, c'est combien?
Pendant 4 heures et puis, poste de 8 heures, nous allons évaluer l'enfant. Si l'enfant peut prendre normalement, là, on passe à la forme perrosse.
Et vous pensez pouvoir le sauver?
Oh oui, comme il l'a déjà, nous avons l'espoir de la sauver.
Et c'est son papa qui est avec lui?
Oui, c'est son papa qui est à côté de lui, qui l'accompagne.
Monsieur, est-ce que je peux vous parler? Donc vous êtes le papa de ce garçon?
Oui, c'est moi le papa de ce garçon.
Et depuis combien de temps est-ce que votre fils est malade?
Bon, depuis le malade a commencé, ça s'est déjà passé 4 jours.
Et quand est-ce que vous l'avez emmené pour les premiers soins?
Pour les premiers soins, nous avons commencé c'est le meilleur la nuit. Mm-hmm. Vers 19h30, nous étions à Seko. Et on nous a transférés ici à l'hôpital général de Lima. Et c'est pour cela que nous sommes ici.
Et donc, vous avez attendu 2 jours avant de l'emmener en centre de santé. Pourquoi avez-vous attendu?
Bon, j'étais en voyage. Nous étions en voyage. C'est ça qui nous a empêchés pour venir ici au centre de santé.
Et quels étaient les premiers symptômes de votre fils?
La fièvre, l'anorexie, vomissement et la faiblesse.
Et vous lui avez donné quelque chose?
À la maison, j'ai donné que, sauf que sérum oral et plus émétivite en sirop et vitamine B6 et antivermineuse.
Et qui vous a conseillé ces médicaments?
Étant que je suis du corps médical, c'est pour cela que j'ai tâtonné de ces médicaments.
Mm-hmm. Et c'est des médicaments que vous aviez chez vous?
Ces médicaments, j'en ai à la maison.
Merci beaucoup, monsieur. Bon courage et meilleure santé pour votre fils.
Merci. Et bon aller. Je vous souhaite bon jour.
Et sur cette question du retard aux soins, je vous propose d'écouter le point de vue du docteur Roger Maema. Il est directeur de l'hôpital de Kempezé et il est chef du service d'ophtalmologie.
Bon, le problème, je crois que c'est plus un problème des malades qui arrivent. Souvent, il y en a qui nous arrivent parfois un peu en retard. Mais ce qui est bon, au moins, ils peuvent être suivis dans les centres de santé. Mais quand ça se complique, ils viennent. Et de temps en temps, nous avons discuté parce que les malades qui nous arrivent parfois un peu en retard, il y a des grandes difficultés sur le plan de complications. Mais dans l'ensemble, je crois qu'il y a une bonne amélioration quand même depuis un certain temps. De moins en moins, on commence à avoir moins de cas compliqués, mais aussi les malades nous arrivent quand même légèrement un peu plus à temps par rapport à ce que c'était dans l'ancien temps avant la sensibilisation.
Le coût des soins est quand même prohibitif pour beaucoup de gens ici. Est-ce que vous avez une idée de comment on peut améliorer le service et inciter plus de gens à venir se faire soigner? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que les soins soient gratuits pour tout le monde?
Bon, le soin gratuit pour tout le monde, c'est bon. Mais je crois que ce que nous sommes en train de vouloir encourager, c'est plutôt la création des mutuelles. Quand il y a des mutuelles de santé, vous comprenez qu'à ce moment-là, les malades sont pris en charge et c'est la mutuelle qui vient payer. Et à ce moment-là, le malade peut contribuer vraiment juste à titre symbolique et c'est beaucoup plus facile. Mais quand il n'y a pas de mutuelle, c'est beaucoup plus difficile. Même si on dit, bon, écoutez, les soins sont gratuits, mais pour combien de temps ils peuvent être gratuits? C'est ça la difficulté. Donc.
Et est-ce que déjà, il y a un projet de mise en place de mutuelle?
Nous avons quelques types de mutuelles, par exemple pour les femmes enceintes, il y a une mutuelle déjà. Et au niveau des infirmiers, des centres de santé, postes de santé, il y a aussi déjà une mutuelle. Donc maintenant, c'est question d'élargir à une plus grande masse des populations pour permettre à ce qu'ils puissent aussi faire partie de ces mutuelles.
Selon une étude américaine publiée l'année dernière, un tiers des médicaments anti-paludisme dans le monde seraient des faux. Est-ce un problème que vous avez rencontré ici, dans ce secteur?
Bon, je crois que chez nous, c'est vraiment un grand problème. Il y a beaucoup de faux médicaments qui circulent dans notre pays. Mais il faut reconnaître que pour le moment, avec la présence de centres de distribution de médicaments, de CEDER, nous essayons de nous focaliser vers ce centre-là. Parce qu'au moins là-bas, nous sommes beaucoup plus sûrs que les médicaments qui nous livrent sont des vrais médicaments. Alors avec la présence des médicaments qui sont donnés actuellement par le Fonds mondial, ça rassure un peu plus le malade parce qu'au moins nous sommes sûrs qu'ils reçoivent de vrais médicaments et non pas des faussetés.
À cause des coûts des soins, mais aussi souvent parce que les gens sont loin de centres de santé, ils ont d'abord recours à la médecine traditionnelle pour soigner le paludisme. Vous pouvez m'en dire un peu plus?
Quand on est dans des milieux ruraux, quand on est au village, la première personne, parfois, on a tendance à vouloir consulter, c'est les tradis praticiens. Mais je crois que de plus en plus, dans la lutte, surtout contre le paludisme, on associe même les tradis praticiens. On essaie de leur faire comprendre qu'il y a certaines choses qu'ils peuvent soigner, mais la malaria, il faut nécessairement qu'ils les orientent vers les centres de santé. Bon, je crois que pour notre zone, nous avons l'avantage quand même d'avoir plusieurs centres de santé et c'est plus proche de nos malades. Et régulièrement, les infirmiers qui sont dans ces centres de santé sont recyclés. Ça rend la tâche un peu plus facile quand même pour le soin de nos malades.
Vous êtes responsable de ce centre hospitalier. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter comme amélioration, si vous en aviez les moyens?
Bon, comme amélioration, je crois que nous devons continuer plus à travailler sur la sensibilisation. On peut avoir des beaux bâtiments, on peut avoir des beaux lits, on peut avoir un bon hôpital, mais il faut encore que cet hôpital puisse être utilisé. Alors, pour cela, il faut que les gens puissent être suffisamment sensibilisés pour qu'ils évitent d'aller n'importe où pour avoir le soin. Je crois que c'est surtout à ce niveau-là qu'on doit faire beaucoup d'efforts. Déjà avec la malaria, je crois qu'il y a déjà un grand pas qui est en train d'être franchi. Mais comme on dit, nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Il faut qu'on continue sur cette lancée-là.
Imogène, le docteur Maïma insiste vraiment beaucoup sur le besoin de sensibiliser la population.
Oui, j'ai beaucoup entendu de personnel de santé me parler d'ignorance. Ils disaient que si les parents n'amènent pas leurs enfants malades à temps à l'hôpital, s'ils n'utilisent pas de moustiquaires, c'est à cause de l'ignorance, au manque d'éducation. L'État ne s'implique pas beaucoup dans la sensibilisation. C'est là que la presse et les écoles peuvent jouer un rôle. À Kempezé, j'ai visité une école et une radio communautaire qui diffuse des spots de sensibilisation.
Mon Dieu, sauvez mon enfant!
Monseka, ton enfant est encore malade?
C'est la troisième fois qu'il est hospitalisé pour la malaria grave. Il est tellement faible qu'il ne mange plus. Et je n'ai plus d'argent pour payer le médicament. Mon bébé va mourir.
Rends-toi vite au centre de santé le plus proche. Là-bas, les médecins vont le soigner. Quand ton enfant sera guéri, tu le ramèneras à la maison. Pour éviter qu'il ne soit piqué par les moustiques, fais-le dormir sous la moustiquaire.
Chers auditeurs,
ce sont des messages diffusés dans plusieurs langues par Radio Bangou. Je suis ensuite allée dans l'école qui se trouve tout près, où les élèves apprennent comment éviter le paludisme, ou comme on dit en RDC, la malaria.
Bonjour mesdames et messieurs.
Le paludisme, en d'autres termes, qui peut donner le paludisme, mais quoi, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, Ntimba?
Malaria.
Malaria, très bien. Le paludisme, de la malaria. Très bien. Quelles sont les mesures préventives qu'il faut prendre afin qu'on ne soit pas atteint de cette maladie?
Il faut dormir dans un moustiquaire.
Dormir sous une moustiquaire.
Très bien. Comment cette maladie doit être transmise à cette personne? Il doit être
atteint par un moustique.
Ah, très bien. Très bien. On peut l'applaudir? Ok. Après, dormir sous une moustiquaire, qui peut me dire encore autre mesure préventive? Oui?
Éviter les flaques d'eau.
Ah! Éviter les flaques d'eau. Je voudrais un peu vous demander. Je pense que tout le monde aime le bois, aime manger le bois de conserve, n'est-ce pas?
Oui.
Après avoir mangé une boîte de conserve, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui.
Il faut les trouver.
Ah, bah, très bien. Trouvez cette boîte-là. Après l'avoir trouvée, qu'est-ce que vous allez faire?
Allez jeter.
Jeter où c'est? Dans la maison?
Non.
Où c'est? Oui. Oui, dans une poubelle. Il y a encore des mesures?
Il faut éviter les déchets autour de la maison.
Ah, merci.
Je suis propre. Tu es propre. Nous sommes propres. Vous êtes propre. La propreté, c'est la grande règle de la santé. La propreté, c'est la grande règle de la santé.
On peut l'applaudir?
Bonjour.
Bonjour.
Tu t'appelles comment?
Je m'appelle Zola Nibazabil.
Donc, je viens d'assister au cours sur le paludisme. Qu'est-ce que toi, tu as compris de ce cours? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'attraper la maladie?
Il faut dormir dans une moustiquaire. Il faut enlever les déchets autour de la maison. Il faut éviter les flaques d'eau.
Et est-ce que toi, tu dors sous la moustiquaire à la maison?
Oui.
Et tout le monde dans ta famille?
Oui.
Et tu te fais piquer beaucoup par les moustiques?
Non.
Et tu as peur d'attraper le palu?
Oui. J'ai peur d'attraper le paludisme.
Alors toi et ta famille, vous faites attention, vous appliquez les consignes, vous nettoyez autour de la maison?
Oui.
Et les boîtes de conserve, pourquoi est-ce qu'on te dit de les trouer?
Parce que si il pleut, l'eau, ça va entrer dans les boîtes.
Et pourquoi il ne faut pas que l'eau reste dans les boîtes de conserve vides?
Parce que si l'eau reste dans une boîte de conserve, les moustiques vont entrer là-bas et on va vous piquer.
Donc ça va attirer les moustiques près de la maison?
Oui.
Et pour terminer, je vous propose d'écouter le ministre de la Santé de RDC, le docteur Félix Kabange Numbi Mukampa. Il nous raconte en quoi tout le monde est touché par le paludisme. Lui-même, d'ailleurs, ça lui est aussi arrivé.
Ma dernière fois, j'étais ministre provincial de l'environnement au Katanga. Je pense qu'il y a une année et demie que je fais un paludisme grave. J'ai été hospitalisé, j'ai été perfusé. J'ai vu combien d'argent j'ai eu à dépenser. Et vous savez, quand vous faites un paludisme grave, à un certain moment, même sur le plan social, vous devenez affecté. Vous êtes en état de psychose. Et c'est un problème. Le paludisme affecte énormément. Et personnellement, je me rappelle encore, parce que là, je ne parle pas directement de moi, mais je parle de ces enfants que j'ai eu à rencontrer dans mon village. C'est une anecdote, madame. Parce que j'ai voulu faire la campagne pour les législatives passées. Je suis arrivé dans mon village, j'ai traversé une dizaine de petits villages. Dans chaque village, je n'ai pas compté moins de 5 décès d'enfants. Et quand je me suis informé, tous mouraient à cause de l'anémie liée au paludisme. J'ai décidé à mes frais de rentrer, d'acheter des poches de sang, d'acheter tout ce qu'il y avait comme intrant de laboratoire, de prendre des laborantins que j'ai repartis à travers... Je l'ai fait avant que je ne sois ministre de la Santé. Et au moment où on a donné le sang, au moment où les parents ont vu leurs enfants ressuscités, c'est le terme qu'il faut utiliser. Madame, le jour des élections, dans cette circonscription-là, quand les mamans et les papas venaient pour voter, certains ne connaissaient même pas mon nom. Ils ont dit qu'ils votaient celui qui a donné le sang. Et le témoin qui était à côté disait, c'est tel candidat. C'est pour vous dire combien le paludisme affecte. Le paludisme peut être évité, le décès lié au paludisme peut être évité. Et le paludisme lui-même peut être évité si nous respectons les conditions d'assainissement, si nous mettons un peu plus de moyens pour que l'accès des femmes, des hommes et des enfants au centre de santé soit plus précoce, parce que si c'est gratuit, les gens viennent plus facilement et ils ont accès aux soins plus facilement. Ça, c'est une interpellation pour nous tous, madame.
Pour lutter contre le paludisme, la RDC reçoit des aides internationales, des aides entre autres du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Imogène Lamb, quel est le montant de cette aide?
Jusqu'à présent, la RDC a reçu plus de 272 millions de dollars du Fonds mondial, avec encore 125 millions approuvés mais non décaissés, spécifiquement pour le paludisme. Cela a permis la distribution de 13 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et le diagnostic et les médicaments contre le paludisme sont également gratuits. Le Fonds mondial a été créé en 2002 pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il mobilise des ressources de la communauté internationale pour les allouer à la prévention et au traitement de ces trois maladies qui constituent les trois principales pandémies dans le monde. La RDC est l'un des principaux bénéficiaires, l'objectif étant de réduire de moitié les cas et les décès liés au paludisme d'ici fin 2016.
Et dans cette lutte contre le paludisme, quelle est la participation financière de la RDC?
Alors, le budget de la santé est actuellement en dessous de 5%, en baisse par rapport à l'année dernière. Et en ce qui concerne l'argent que l'État s'est engagé à dépenser pour la lutte contre le paludisme, au moins 5% des fonds accordés par le Fonds mondial, cette somme n'a pas encore été décaissée.
Et en RDC, est-ce que les cas de paludisme sont en baisse depuis cette aide financière?
Oui, en 9 ans, entre 2001 et 2010, les cas de paludisme ont baissé de 41 à 27%. Mais il y a régulièrement des flambées de la maladie, comme à Kinshasa, fin 2010, début 2011, quand les cas de paludisme ont presque doublé, passant de 130 000 à 250 000.
Imogène Lamb, merci pour ce reportage en RDC, réalisé en partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Une émission réalisée par Didier Bleu. Lundi, nous parlerons du deuil. Comment surmonter la perte de quelqu'un? Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.sante@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 84 22 75 2 fois. Vous pouvez aussi nous laisser des messages sur les réseaux sociaux. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.